Pourriez-vous y demander qu'il lise ses courriels puis qu'il fasse ses concours, s'il vous plaît? La direction vous remercie.
Marceau, le midi.
Je sais pas si vous allez être jaloux, mais je commence à ressentir un peu de jalousie, quoique moi, d'ici le temps des fêtes, je devrais aller faire un tour en voyage, mais j'ai plein de collaborateurs. Hier, je parlais avec Benoît Thérien de Truck Stop Québec, qui est en Floride. Là, j'ai Louis Gauthier, chroniqueur international, qui est en Floride aussi.
Tu veux pas être au Costa Rica en ce moment, ça c'est sûr.
Qu'est-ce qui se passe au Costa Rica?
Grosse inondation, eu des pluies torrentielles, puis même que l'aéroport de Liberia est fermé. Fait que ceux qui avaient des vols sont pognés au Costa Rica à take a kayak.
Ah ouais. Ça doit être vraiment poche être pogné au Costa Rica.
Écoute, Yannick, je me suis posé la même question. À moins que ça soit dangereux pour ta vie, parce que je sais que ça peut être vraiment intense, là, les pluies au Costa, ça brise ses routes. Finalement, c'est pas pour rien qu'ils ont tous des chars élevés là, pour passer dans les rivières qui est créée par les pluies. Mais l'aéroport est condamné.
Ouais. Moi, c'est arrivé il y a 2 ans. Il y a eu un focoyage pendant le temps des fêtes, là, grosse tempête de neige au Canada. Puis il y a des avions qui n'étaient pas disponibles, patati patata. Puis quand je me suis rendu à l'aéroport, le gars avec sa petite capine Sunwing, là, puis son polo orange, me dit « D'après moi, vous n'aurez pas d'avion d'ici 4-5 jours. » Et là, je regarde ma blonde, dans son visage, elle était terrorisée.
Arrête!
Et moi, le gros sourire dans la face, « Quoi?
Yes!
Je suis pogné ici de 4-5 jours de plus! »
Est-ce que vous n'êtes pas resté à l'aéroport?
Non, non, on s'est reloué une chambre d'hôtel, puis Sunwing s'est arrangé. Mais bref, on a hâte, on est jaloux des gens qui sont en Floride présentement, fait qu'on vous salue. Si vous nous écoutez,
faut pas paniquer.
Via l'Internet, Louis Gauthier qui est en Floride, qui a de l'air à se la couler douce aussi.
Ah non, je me la coule pas douce.
Arrêtez de nous achaler avec votre bonheur, M. Gauthier.
Hey, là, les gens de Québec, là, arrêtez de regarder ce qui se passe au Costa Rica. En Colombie-Britannique, il y a un microcyclone qui a frappé hier. C'est la neige plein ciel à Calgary. Puis les routes au Manitoba sont barrées de partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest.
Hey boy, ça brasse!
Pourquoi
l'hiver
j'aime ça?
S'en vient, les amis.
Pourquoi moi j'aime ça? C'est-tu comme mon petit tempérament? Je sais pas, moi l'hiver, je trouve ça le fun. Tempête de neige, il y a quelque chose de nostalgique, il y a quelque chose de plaisant d'être poigné dans ta maison, de faire un feu, si t'en as un. Faites pas ça dans le milieu de votre salon, là, dans le foyer.
Non, mais ça, tu vas faire ça une fois que tu auras pelleté ta cour, déblayé ton entrée, puis au moins 4 fois dans la journée.
Ça peut attendre.
Bon. Ça brasse-tu pas mal aux États-Unis là, avec les élections de Donald Trump? Il y en a-tu qui n'en sont pas encore revenus? Je regarde au Québec sur les réseaux sociaux, là, bon, des endroits où c'est un peu plus à gauche, les gens sont encore en panique, ne sont pas capables d'accepter qu'une démocratie puisse faire un choix qui ne font pas leur affaire.
Écoute, il y a 157 millions d'Américains qui se sont présentés aux urnes le 5 novembre. C'est, ben écoutez, regardez la population au Canada. Regardez la population de l'État de New York, puis quelques États limitrophes. C'est tout ce monde-là qui a voté aux États-Unis, dont près de 77 millions pour Donald Trump, qui a remporté la Maison-Blanche, les deux chambres et une majorité du collège électoral, et en plus a ramassé la majorité du vote. Êtes-vous en train de me dire que l'importance de 77 millions de personnes ne compte pas dans l'équation?
Ah, écoute, moi, c'est pas moi qui vais s'ostiner avec toi, là. C'est juste qu'il y en a qui en reviennent pas. Puis tu sais quoi, sont rendus tellement mêlés. Là. La gauche a toujours été reconnue comme des gens de paix, des gens qui emmenaient pas large. T'sais, quand on parlait de la guerre et tout ça, ils voulaient rien savoir de la guerre. Et là, c'est rendu le contraire. Ils sont en train de féliciter Biden d'autoriser des missiles longue portée pour l'Ukraine qui est en guerre avec la Russie. Et de l'autre côté, t'as les gens qui ont voté pour Trump qui sont tout à fait satisfaits de voir que quand lui va arriver au pouvoir, ben il va essayer d'arrêter la guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est rendu que la gauche est mêlée. C'est rendu que la gauche peut être pro-guerre. Je pensais jamais que ça aurait pu être possible.
Le Parti démocrate dans l'histoire américaine, c'est le parti qui est allé le plus souvent en guerre. L'histoire d'homme, la dernière guerre qui a été déclenchée par des républicains, c'est George W. Bush en Irak. Ça s'arrête
avec
là.
Avec les fameuses armes de destruction massive.
T'en as parlé hier avec Jérôme. J'ai envoyé un message à Pascal. Les missiles qui étaient sur place, là, ça n'a pas été envoyé par Pearl Later. Puis non seulement par Pearl Later, mais ça n'a pas été envoyé par Post Canada parce que ça serait arrivé en retard. C'était déjà là sur place. C'était une menace qui était existante. La menace de Vladimir Poutine, c'est une menace dissuasive tout simplement. Le fait de rappeler nos ambassadeurs, autant des États-Unis que du Canada, c'est de la poudre aux yeux parce qu'il y a à peu près aux 2 heures qu'une alerte à la bombe dans Kiev, dans la ville de Kiev, à tous les jours depuis bientôt 3 ans. Donc, c'est de la poudre aux yeux. Puis imaginez, à Moscou présentement, là, Il n'y a pas personne qui s'en va se cacher. Il n'y a pas personne. Parce que imaginez quelqu'un qui décide de lancer la bombe nucléaire, personne ne semble se rappeler des effets collatéraux que ça peut causer. Puis s'il y en a un qui paye sur le piton de la bombe, si Vladimir Poutine paye sur le piton de la bombe nucléaire ou de l'armement nucléaire, Moscou se fait poivrer, ça ne prendra pas une demi-heure.
Est-ce que tu as eu comme information que Donald Trump aurait déjà parlé avec Vladimir Poutine? Puis Elon Musk aussi semble emmener large de son bord là, avec d'autres pays avec qui les États-Unis sont en conflit?
Il y a énormément de téléphones qui se fait, que ce soit Donald Trump, que ce soit Xi Jinping en Chine. Il n'y a pas un move comme ça qui va se faire. Puis même que les Ukrainiens ne sont pas de bonne humeur de voir que certaines ambassades se vident depuis hier. Bien là, c'est déjà la nuit, là, mais ou déjà la fin de journée. Il n'y a pas personne qui... Tu vois là, que présentement, là, quand on a eu un genre de 2 semaines d'accalmie au niveau des conflits mondiaux, qu'on voit que c'est en train de se régler au Moyen-Orient parce que le Mossad agit très rapidement pour trouver un futur nouveau chef de Hezbollah qui est éliminé en partant. Puis là, on est tous concentrés sur ce qui se passe en Ukraine et je persiste et signe, ça va se régler très rapidement, de la façon diplomatique, avec une cession de terrain.
Ça va être le Donbass. Le Donbass va passer aux Russes.
Le Donbass, je le dis, peut-être pas le Donbass au complet. Puis au change, l'Ukraine va gagner parce qu'elle n'a pas les moyens financiers de développer ce grand territoire-là. Puis elle va avoir énormément de bidous dollars pour la cession de ce terrain, de cette portion-là de son territoire qu'elle n'a pas eu pour la Crimée en 2014. Donc, elle va gagner au change de toute façon. Elle n'aura pas à développer puis à servir ce fameux territoire-là. Puis de toute façon, tout le monde parle le russe. Tout le monde, c'est les gens, quand ils vont magasiner, là, hein, ils vont magasiner plus à Moscou qu'à Kiev, là, quand tu es dans le Donbass. Si on peut appeler ça de même, là, ils sont plus de d'allégeance russe ancestrale qu'ils le sont de la souche ukrainienne. Donc, ça ne sera pas un problème. Ça règle le cas, puis ça va se régler. L'administration actuelle a fait présentement, c'est tout simplement une réponse à ce que les Russes ont fait, des attaques aériennes, la présence de 10 000 soldats nord-coréens qui sont sur place dans le nord-ouest de la Russie, pas loin de la région de Koursk, pour essayer de récupérer ce fameux territoire-là. J'en ai déjà parlé. On essaie de régler ce territoire-là parce qu'on a peur qu'on ait une pénurie de distribution de pétrole pour le nord de l'Europe vers l'ouest, là, vers l'Allemagne. On veut pas retrouver les Allemands gelés encore une fois cette année. Donc, on essaie beaucoup de protéger ce secteur-là. C'est tout simplement l'histoire de la bombe et l'histoire des missiles de longue portée qui ont été lancés. C'était l'erreur. Parce que ça, c'est comme avoir un chien de garde, puis tu le retiens avec une chaîne de 3 pouces de diamètre, puis qu'à la minute que tu dis, bon, ben va marcher, là, pour faire tes besoins, puis tu le détaches, ben il part à la course, puis s'en va mordre tout le monde. C'est un chien de garde. Bien, c'est ça qui est arrivé avec les Ukrainiens. Eux autres, là, ils ont eu les bébelles à leur accès, ils ont eu la clé, ah ouais, on lance ça tout de suite. C'est après un coup de téléphone, une demi-heure après, c'était parti. Mais c'est toute une réaction qui se fait en raison de la réaction des Russes qui ont fait des attaques aériennes qui menacent d'en faire encore, la présence des 10 000 soldats coréens. Puis on a réagi, puis ces missiles-là étaient déjà sur place, étaient déjà entreposés sur place. Puis c'était une menace dissuasive. Et l'administration Biden, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dû presser pour finir des dossiers rapidement avant de sortir de l'administration puis d'envoyer ça. Sauf que ça... Rapidement, ben, la prochaine administration doit réagir parce qu'on voit la vitesse que Donald Trump nomme son cabinet, les gens de son cabinet. C'est des gens qui vont agir très rapidement. Là, le 20 janvier au matin, quand les décrets vont se signer, bang, ça va rentrer en poste puis ça va se régler assez vite. Moi, je m'attends de voir les 100 premiers jours de l'administration Trump, du 47e président américain. Il y a des affaires qui vont se régler assez vite parce qu'il veut passer à autre chose. Il y a des questions de protectionnisme de son territoire qu'il veut régler. Il y a des coupes à faire. Il est en train d'y organiser la patente. C'est pas pour rien qu'il a nommé Ramaswamy avec Musk dans un fameux ministère de réorganisation de la gouvernance. ils vont agir vite là-dedans. Là. Il ne prendra pas 3 ans et demi pour faire ça. Là. Ça va se faire très rapidement dans la première année.
Zelensky, tu le vois où? Parce qu'advenant dans le cas où l'Ukraine cède le Donbass, bon, il va y avoir de l'argent aussi en jeu dans tout ça, mais Zelensky, il reste en Ukraine ou il déménage?
Bien ça, je l'ai déjà dit. Il ne restera pas sur place. Il va avoir un palais d'or ailleurs. C'est arrivé avec le Shah d'Iran. C'est arrivé avec les Duvaliers en Haïti. C'est arrivé avec à peu près tout le monde qui ont essayé de gagner.
Tu m'as nommé toutes des dictatures. Tu m'as nommé toutes des dictateurs, Louis.
Oui. Bien, écoute, c'est pas la première fois que je le dis. Là. Toujours se méfier d'un chef d'État qui est toujours habillé avec des vêtements militaires.
Ouais. Mais tu penses pas que son peuple va quand même souhaiter qu'il reste avec eux? Parce que dans certaines situations, il a été apprécié. Là. Il y en a d'autres qui sont un petit peu particulières, là. Mais il y a des situations où, entre autres, de rester auprès d'eux en pleine guerre, ça a été apprécié par les Ukrainiens. Là.
Pascal, les gens de l'Europe de l'Est sont très orthodoxes. C'est blanc, c'est noir. C'est pas gris, c'est pas « on va donner une chance ». S'il ne fait pas un job, il va partir. C'est comme l'ancien président de l'Ukraine qui était là, il a décollé lui aussi. C'est comme ça dans l'histoire, ils vont décoller de là. Parce que c'est trop dangereux, ils ne peuvent pas assurer leur sécurité. Ils peuvent avoir des gens même dans son cabinet qui vont être refusés. N'oublie pas qu'il a mis des généraux à la porte qui ne sont pas de bonne humeur. Ils attendent juste l'occasion pour y péter deux jambes.
Ils vont faire un takeover. Hey, je voulais avoir des nouvelles d'Haïti. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oui. La population qui décide de se prendre en main puis qui se débarrasse des gangs de rue?
Ben oui, ça, ce qui est arrivé, c'est arrivé cette nuit. Il y avait des Econoline qui se déplaçaient vers Piétonville. Ça, c'est à peu près le quartier cossu. Là. C'est comme le céleri là, de Port-au-Prince. Et il y a des gangs de rue qui se dirigeaient par là. Puis, lors d'une vérification d'immatriculation, bon, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'immatriculation sur le véhicule en question. Puis, les policiers se sont mis à la poursuite de ce véhicule-là. Ils ont averti, parce que là-bas, ils ont des haut-parleurs, ces véhicules. Les gens, la population est arrivée, ça a arrêté tout le monde. Il y a eu 34 morts. Puis, les 34 morts, ce sont des membres des gangs de rue. Puis, on a même brûlé des gens sur place. On les a incinérés sur place, bang, s'en débarrasser. Alors, pourquoi qu'on en parle ce matin? Parce que c'est la première fois qu'on a un incident aussi majeur qui apparaît, puis que là, la population commence à reprendre confiance en elle. Puis on voit beaucoup que c'est des jeunes qui demeurent sur place, qui disent « Non, nous, c'est pas vrai qu'on va se faire enrôler par les gangs de rue, puis on va sauver, on a peut-être plus d'espoir de ce côté-là. » Puis là, ben, avec l'appui des policiers sur place, ce qu'on a fait ce matin, c'est qu'on a agi rapidement, puis là, on est en train de se donner une certaine confiance. Puis c'est comme une genre de petite lumière au bout du tunnel qu'on voit. Est-ce qu'on verrait les Haïtiens reprendre du poil de la bête puis se redonner une certaine démocratie locale? Ça serait important. C'est très intéressant ce qui s'est passé cette nuit.
Qui contrôle Haïti? Parce que, bon, on avait parlé avec toi qu'effectivement, les gangs de rue emmenaient large. Il y avait un ancien policier...
Chef de police, oui.
Un ancien policier qui était devenu chef de gang. Encore,
ce qu'on comprend des gangs de rue présentement, au début, ce qui faisait leur force, c'était la force du moment, c'est-à-dire ils étaient tous regroupés ensemble avec à la tête un chef de police qui était de l'ancienne organisation qui a décidé de prendre le contrôle. Malheureusement, ce qui est arrivé, c'est qu'il a voulu trop en prendre. Il a voulu trop prendre de pouvoir, puis là, ben, ça s'est rescindé une fois de plus et ça s'est dispersé. Puis il y a comme un free-for-all parmi les regroupements de gangs de rue. Tout le monde prêche pour sa paroisse, autrement dit. Puis ça, ben, ce qui était leur force est devenu leur moment de faiblesse. C'est ce qui explique ce qui est arrivé hier. Parce que, voilà un an, une chose comme ça ne serait pas arrivé, là.
Puis là, c'est encore un premier ministre qui est là, c'est fils aimé qui est là, mais le président de la République, le poste est vacant. À un moment donné, il va falloir qu'il mette quelqu'un en place.
Oui, parce que c'est un gouvernement, entre parenthèses, de transition, mais il n'y a aucune date de préemption dessus. C'est ça l'affaire. Le problème, c'est qu'on a un gouvernement de transition. Présentement, on n'est pas dans le bon moment pour tenir des élections. Il faut retrouver une certaine paix sociale, ce qu'on n'essaie pas de faire. Ce qu'on demande du côté de l'année internationale, c'est toujours de l'argent. Mais là, on commence à refuser à donner de l'argent. Puis on va se servir plus. C'est pour ça qu'on a des Somaliens qui sont sur place. Il y a beaucoup de pays africains qui ont déployé certaines troupes de leurs armées, là, de leur pays, pour aller assurer la sécurité. Mais on va voir ce qui va arriver. Est-ce que Donald Trump va en faire un de ses dossiers au niveau international? Est-ce qu'il va y avoir une ouverture pour régler ça? Il y a une affaire qui est sûre, c'est qu'on le Donald Trump, on le voit comme le retour du Jedi qui va régler à peu près tout ce qui se passe autour de la planète.
Mais faut encore qu'il y ait des avantages pour lui. Là. Y a-t-il un avantage, mettons, économique dans ce cas-ci, si jamais il décidait d'entrer...
Pour Haïti, c'est la perle des Antilles.
C'est encore tout ce qui est ressources naturelles?
Ben non, les ressources naturelles, c'est les champs de canne à sucre, le café... Ouais. Ses voisins de la République dominicaine. Le seul avantage qu'il pourrait avoir, ce serait pour son entreprise familiale, Trump International, pour aller construire des hôtels.
Pour le tourisme, c'est la perle des Antilles.
Oui. C'est magnifique. Mais écoutez, la perle des Antilles, Haïti, là, dans les années 50, là, c'était l'endroit là, de prédilection. C'était le Cancun de l'époque. Alors, c'est triste qu'on ne voit pas cet appui-là financier. Les voyages, le commerce derrière l'hôtellerie qui pourrait aider la relance économique de l'île d'Haïti, ça serait important.
Quand tu as passé les douanes américaines, oui. Est-ce que tu as croisé des policiers de la Sûreté du Québec qui patrouillaient les frontières?
Non, mais moi, ça m'a fait sourire parce que ça fait 6 mois qu'on entend parler que certains postes frontaliers qui vont se ramasser sur des horaires de fonctionnaires de 9 à 5. Il y a à peu près 4 ou 7 postes frontaliers dans la province de Québec. Il y en a 34 total au Canada qui, à partir du 6 janvier, vont fermer et vont travailler seulement de 9 heures le matin à 5 heures le soir. Puis ce qu'on donne comme raison, c'est que ce qu'on ne veut pas dire comme raison, mais ce qu'on donne comme raison, c'est qu'on va prendre les employés de ces postes frontaliers-là fermés pour les amener dans des postes plus occupés, comme Lacolle, comme Jackman, qui va demeurer ouvert, que ce soit à Gananoque en Ontario, que ce soit à Buffalo, peu importe. On en ferme 2 en Alberta, on en ferme 4 au Manitoba. Il y a des places en Ontario, c'est à peu près 6 qu'on ferme. Alors, tu vois que... mais il y a une pénurie de personnel là aussi. On a de la difficulté à trouver des bons agents qui vont travailler 24 heures sur 24 sur place, mais on se prépare. Et pourquoi le premier ministre du Québec a envoyé ses policiers de la Sûreté du Québec, je te dirais, patrouiller le long de la frontière? Bien, c'est une bonne chose, ce qu'ils vont le faire, mais ils vont devoir se référer aux services frontaliers canadiens s'ils font des arrêts parce que c'est sous compétence fédérale. Puis la province de Québec n'a pas, la Sûreté du Québec d'ailleurs, n'a pas le pouvoir. Lorsqu'on va faire des arrêts comme ça, il faut absolument appeler le CBSC pour qu'on vienne chercher les gens qui auront tenté de traverser les frontières dans ces postes-là. Mais les postes qui vont fermer, qui sont beaucoup en Montérégie, là, je te dirais, sur la ligne entre Stanstead puis Jackman, là, qui donne sur le Maine. Ça me surprendrait que ça traverse là parce que c'est très, 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 très montagneux. Mais quand tu es dans le besoin, ben tu prends les moyens. Hein, quand tu es un réfugié et qui essaie de se lancer. Mais je te dirais qu'à la colle, on commence à faire le ménage là, où il y avait les fameuses roulottes. Là. J'ai comme l'impression, là, parce que j'ai passé là la semaine dernière, j'ai l'impression qu'on va... qu'on va revoir certaines roulottes de chantier renaître là, d'ici quelques semaines. Je ne serais pas surpris.
Qui vivra verra, mon ami. Je te souhaite de passer un bon séjour aux États-Unis puis viens pas nous montrer ton bronzage à ton retour, OK?
Mais je suis toujours bronzé 12 mois par année.
Ouais, c'est ça. C'est dans ta tête. Salut!
Salut! Bye tout le monde.
Salut. Salut.
L'excellent Louis Gauthier pour parler d'actualité internationale. Des gens qui sont un peu fâchés du fait qu'on parle du conflit entre l'Ukraine puis la Russie. C'est quelque chose qui touche, là, on va se le dire. Au départ, dans les dernières heures, ce qu'on a appris, c'est que Joe Biden a autorisé les missiles longue portée pour que l'Ukraine puisse continuer à faire la guerre contre la Russie. Il y a un changement de président aux États-Unis qui va s'amorcer. On a un président qui veut peut-être... arrêter tout ça. Ben, en fait, il veut peut-être. Il veut arrêter tout ça. Et t'as l'autre qui, lui, doit faire tout en son pouvoir pour essayer de respecter ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire aider le plus possible l'Ukraine contre la Russie. Puis on n'a pas le choix d'en parler. Mais à savoir si on s'inquiète à Boulevard ou si je m'inquiète à Boulevard du sort des femmes et des enfants ukrainiens, c'est bien sûr qu'on s'inquiète de ça, tu sais.
Mais c'est parce que c'est un envahisseur premier, soit la Russie, qui est de moins en moins pointé du doigt dans certains discours. Puis c'est un petit peu un raccourci intellectuel parfois de penser que Trump, dans ce qu'il va dire, soit d'arrêter la guerre, ça s'arrête là. Arrêter cette guerre-là, il y a quand même beaucoup d'impacts sociaux. Si, en plus, c'est une discussion avec Vladimir Poutine. Fait que je pense que des fois, c'est peut-être ça qui va aller grinsouiller chez certaines personnes. Parce que oui, si on y va avec la vertu de se dire « Trump va arrêter la guerre », c'est la première chose que tout le monde souhaiterait, qu'on arrête cette guerre-là. Mais de le faire avec la manière dont Trump souhaite le faire, les impacts sont forts aussi. Fait que c'est à ne pas négliger puis à analyser dans les deux clans. Qu'est-ce qui est la meilleure option en ce moment? Est-ce un genre d'offensive comme Biden? Est-ce un genre d'offensive pour Trump, comme Trump? C'est très complexe comme conflit. Fait que c'est juste de pas voir, peu importe si c'est Trump ou Biden, ou peu importe le nom, c'est de voir derrière les choix politiques.
Gab, il nous écrit « Pourquoi diminuer la cause ukrainienne? » On n'a pas diminué la cause ukrainienne.
Je pense que c'est ce que je viens d'expliquer.
On a parlé de Zelensky.
Je pense que c'est vraiment ce que je viens d'expliquer.
Oui, je comprends. Mais on a parlé de Zelensky, puis c'est ce qu'il nous mentionne aussi. Puis Zelensky, ben ça se peut qu'il soit pas en Ukraine lorsque tout ça soit réglé, parce que ça pourrait être dangereux pour sa vie.
Il vient de re-répondre... En parlant avec toi, là, je vais vous laisser vous texter, là, mais je pense que c'est ça aussi. T'sais, des gens qui voient, mettons, un sauveur en Trump là-dedans, il y a aussi beaucoup de choses qui sont à prendre en compte. L'économique versus l'humain, qui est à prendre en compte aussi entre une alliance, avec qui tu es dans cette alliance-là, qui peut être pointée du doigt autant par Zelensky, puis ce qu'on connaît aussi de ses finances et autres, puis des avantages que ça peut lui avoir donné, cette vision-là un peu pacifique à travers le monde. Est-ce une vraie? Peu importe, en ce moment, il y a beaucoup plus de gens qui se soucient des civils tués dans les deux clans. Puis c'est ça, l'offensive de Trump de « je vais arrêter la guerre » vient avec énormément d'impact à ne pas négliger, c'est pas juste d'arrêter la guerre.
Voilà. Harvey Danger, Flagpole, c'est sur Boulevard. Vous avez des choses à nous dire, c'est le 88 971 1021.